Espagne, sa sœur orientale. J'ai réfléchi totalement à cette
question. Moi, j'ai essayé de vous voir au cachandage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter Parole aux auditeurs, votre émission d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. C'est jeudi 2 mars et nous parlons santé avec vous. 33 cas de méningite dont 10 décès ont été signalés il y a 2 semaines dans la zone de santé de Mouloumba-Tchilemi au Kassai oriental. À l'issue de la réunion des crises présidée jeudi 24 février dernier par le ministre provincial de la Santé, plusieurs stratégies ont été prises pour identifier les axes de la riposte en vue de mettre fin à l'expansion de cette maladie. Une méningite est une inflammation de méninges, le plus souvent d'origine infectieuse. Et on en distingue deux formes très différentes. Et bien sûr, il s'agit de méningite virale et de méningite bactérienne. Ces questions seront bien approfondies par notre invité qui est déjà en ligne. Une question pour lancer l'échange avec les auditeurs de Radio Capi. Comment réagissez-vous face à la résurgence de cette maladie et quels proposeurs proposez-vous pour la prévenir? Nous avons au téléphone en première partie de l'émission le docteur Jean-Baptiste Songy, spécialiste en santé publique et ancien ministre de la Santé. En deuxième partie de l'émission, nous aurons l'intervention du docteur Védoné Mwamba, chef de division de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Marie-Chantal Lumba, Kikimputu, Pinto Kwale et Mimi Kindou sont à la réalisation de cette émission, supervisée par Nicole Ndiaka, Pierrot et la Méji, vous la présente, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Radio Okapi est aussi avec vous sur la solution, en direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, parler, nous transmettons, proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Et nous parlons de la méningite, cette maladie infectieuse qui s'est déclarée au Kassai oriental il y a deux semaines. Mais la maladie touche le quotidien de la plupart des Congolais, comme vous, auditeurs de Radio Capi. C'est pour cela, ensemble, dans cette émission, nous dégageons les pistes et solutions. Ce qu'il faut faire pour prévenir cette maladie, mais nous avons aussi en ligne un spécialiste de la matière, c'est le docteur Jean-Baptiste Songy. Docteur Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour.
Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Parole aux auditeurs pour commenter ensemble avec les auditeurs des Radio Capi ce qui touche à la santé. Nous parlons de la méningite parce que cela s'est déclaré au Kassai oriental il y a deux semaines, environ 33 cas, 10 décès. C'est quand même une préoccupation. Et à l'introduction, j'essayais juste d'expliquer en deux phrases la méningite, mais nous pouvons bien l'entendre de la bouche d'un spécialiste avant bien sûr que les auditeurs nous puissent vous parler, que vous puissiez nous aider à comprendre d'une manière juste et brève ce que ça veut dire. La méningite, qu'est-ce que cela veut dire d'une manière brève?
C'est comme vous l'avez dit, la méningite c'est une inflammation de méninges qui est donc l'enveloppe, si vous voulez, qui couvre un peu le tissu nerveux et qui est souvent, en fait, qui est constitutive, la méningite, donc à des infections bactériennes, spécialement le méningocoque, comme il y a aussi le pneumocoque qui peut être à la base de méningite. Mais je pense que lorsqu'il y a le problème épidémique, lorsqu'il y a une méningite épidémique, en général, c'est le méningocoque qui est en cause. Et aujourd'hui, en principe, il y a des vaccinations, il y a toute une série de traitements qui peuvent juguler une telle épidémie.
Et par exemple, prenons ce qui se passe au Kassai oriental, brusquement, quelqu'un est malade, 2 personnes, 3 personnes, 4, ainsi de suite. Comment on explique un peu le déclenchement de cela? C'est parti d'une autre maladie, ou bien c'est un déclenchement brusque, ou bien il y a un réservoir quelque part qui a les microbes et en faveur des circonstances, cela se déclenche comme ça. Comment on peut expliquer d'une manière plus simple pour qu'un auditeur comprenne le déclenchement de la maladie?
Non, dans le cas de la méningite, vous savez que le méningocoque se retrouve dans l'oropharynx, dans la gorge, là, il y a des porteurs sains du méningocoque. Et que souvent, il y a des facteurs qui influencent un peu ce passage du pharynx, vers le système nerveux central. Parce que quand vous prenez la gorge, ce n'est pas très loin du système nerveux central. Alors donc, ce passage peut être favorisé par plusieurs facteurs, par exemple la diminution de l'immunité, la promiscuité, par exemple quelqu'un qui a des germes, du fait par exemple qu'il fait froid et que les gens se mettent ensemble, cette promiscuité peut être un facteur favorisant. Les gens dont l'immunité est diminuée, par exemple la malnutrition, peut être un facteur qui peut favoriser l'éclosion d'une méningite. Donc, dans le cas des pestes, je pense que c'est plus les épidémiologistes, c'est des gens qui sont sur place, qui peuvent déterminer à quel niveau, qui commence à commenter. Il va y avoir certainement un certain nombre de gens qui en ont été atteints, et à partir de là, ils ont commencé un peu à contaminer par les petites gouttelettes de salive, par les éternuements, par la toux. Voilà un peu comment peut partir une épidémie de méningite.
Et avant de donner la parole aux auditeurs, quand est-ce qu'on peut alors déclarer l'épidémie? Et est-ce qu'on peut avoir un hôpital où il y a un cas, un enfant qui s'est présenté, on dit qu'il a la méningite? À quel seuil on peut déclarer cela une épidémie?
Non, d'abord, je sors une méningite. Dans la mesure justement que le risque épidémique est important, et qu'il y a un seul cas, on doit faire l'enquête épidémiologique pour voir si c'est un seul cas,
voilà,
si vous voulez, ou il y en a d'autres. Donc on doit essayer de voir le contact de la malade ou du malade pour essayer de voir, suivre un peu les autres, au cas où les autres commencent par des signes, par exemple la fièvre, des maux de tête. Alors à ce moment-là, on peut effectivement se dire qu'il y a un risque épidémiologique. Alors à ce moment-là, bien sûr, on ne déclenche pas le processus d'épidémie, l'alerte épidémiologique. Tant qu'on n'a pas des preuves, en ce moment, normalement, on doit faire l'examen de bactéries, de la fonction lombaire notamment, pour essayer d'identifier le germe. Alors, si c'est une méningite à méningocoque, le risque épidémiologique est évidemment relativement important. Et dès que tous ces paramètres sont réunis, c'est à ce moment-là qu'on déclare qu'il y a risque d'épidémie. Alors, à ce moment-là, non seulement la mesure, il y en a de deux ordres. Donc, la première, c'est évidemment de couper court à la source de contamination que sont les malades, donc en les traitant. En même temps, on vaccine une population cible qu'on détermine pour justement empêcher que la contamination se poursuive.
Voilà. Merci, docteur Jean-Baptiste Sange. On vous garde en ligne. Hein. Parole aux auditeurs, c'est aussi une émission pédagogique pour permettre aux auditeurs de comprendre l'un ou l'autre point à ce qui touche la santé, parce que c'est très important, c'est très délicat. Les auditeurs qui sont en ligne, comme Josué, qui nous appelle Bissiro, Christian, qui est dans Mandaka, vous avez aussi des préoccupations par rapport à la méningite, soit ce sont des questions, soit que vous-même, vous pensez aussi contribuer à cette émission pour qu'on trouve solution aux problèmes qui touchent à notre vie de tous les jours. N'hésitez pas à les faire aussi en nous appelant au 081-890-6315 et faites votre accès à l'Internet, peut également le faire en nous adressant un mail à l'adresse pa@radiocopie.net.
Parole aux auditeurs.
Josué, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour à toi. Et bonjour à tous les auditeurs de la population suivante.
Josué, nous parlons de la méningite. Hein. Cette maladie a été déclarée au Kassai Oriental. C'était il y a deux semaines, mais notre souci dans cette émission, c'est aussi savoir ce que vous pensez de cela et votre contribution pour qu'on puisse la prévenir. Vous avez suivi l'introduction bien détaillée de notre premier invité, Dr Jean-Baptiste Sangy, et vous êtes à Issiro. La maladie s'est déclarée bien sûr l'un de vous, mais c'est une préoccupation parce que ça touche la vie de tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est votre contribution pour la prévention de cette maladie, Josué?
Oui, monsieur le journaliste, quant à ce qui concerne les cas de la méningite qui est enregistrée dans cette partie du pays, moi j'en dis la majeure partie au ministère de la Santé, car la tâche des régions
Et là, on a le problème de liaison avec Issiro. Apparemment, on ne parvient pas à suivre le propos de Josué. Mais dis-moi, à l'introduction, Josué a pensé que la responsabilité pour lui, c'est au ministère de la Santé, qui a la charge, bien sûr, hein, en ce qui concerne la santé de la population, mais la suite n'a pas bien suivi. C'est un problème des liaisons téléphoniques avec ici en province orientale. Peut-être que l'on pourra rejoindre, essayer de recontacter Josué, mais ça nous permet quand même d'avoir Christian qui est en Mandaka. Christian, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot et la Mégie, mais bonjour à l'invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la parole aux auditeurs.
On vous écoute. Votre réaction, comme je venais de le demander aussi à Josué, par rapport à la méningite, et ce que vous pensez qu'il puisse être fait pour la prévenir, Christian?
Je pense que l'introduction de messieurs les docteurs a été vraiment claire. Et pour dire, je voudrais dire que la méningite commence souvent par la non-circulation au niveau du cou. Il y a ce qu'on appelle le réserve de la nuque. C'est-à-dire, des fois, on se sent mal au cou, le cou n'est pas tellement en circulation, c'est resté un peu, je pense, comme un statue. Ça ne bouge pas quand vous essayez quand même de le bouger, ça n'a pas trop de circulation. Et quand on se sent avec pareil malaise, il faudrait aller plus vite que possible faire ce qu'on appelle l'examen de tension lombaire. Donc, c'est un examen auquel on doit nécessairement tirer le liquide céphalo-rachidien. C'est là où on va trouver le méningocoque, comme l'a dit notre invité. Parce que cette maladie, vous savez, ça cause des torts, voire même des décès. Et donc, quand on se sent déjà malaisé comme ça, il faut pas rester à la maison, prendre des paras, parce que la plupart des gens, surtout nous, Congolais, nous avons, quand on se sent mal, on veut toujours prendre des paras, finalement, on veut prendre des handicaps pour se dire que non, on pourra se guérir. Donc, quand on se sent déjà mal au niveau du cou, il serait important de partir, de faire un examen auprès d'un médecin pour savoir de quoi vous souffrez. Parce que la méningite commence souvent par la non-circulation au niveau du cou.
Merci beaucoup, Christian de Mandaka. Vous avez suivi là, vous avez sensibilisé les compatriotes pour que les gens d'abord évitent l'automédication, c'est-à-dire que le fait de prendre le médicament à domicile, dès que vous vous sentez déjà mal à l'aise, il serait mieux d'aller à l'hôpital, vous avez donné quelques signes, allez consulter directement le médecin pour qu'on vous dise de quoi vous souffrez plutôt que prendre des médicaments à domicile. Cela est dangereux vu la gravité et les conséquences de cette maladie, la méningite. Merci beaucoup, Christian, pour cette contribution et cette sensibilisation. À Kolwezi, au Katanga, Papi est en ligne. Papi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous parlons de la méningite qui s'est déclarée au Kasaï oriental. Vous avez suivi Christian. Il a pensé, lui, qu'il faut plus sensibiliser les gens à consulter en cas de doute sur son état de santé plutôt que les automédications. C'est-à-dire qu'à agir en amont pour éviter qu'on soit déjà malade et qu'on connaisse toutes ces difficultés. Parce que vous savez aussi que la méningite, tout sérieusement, et des fois, elle laisse même avec des séquelles très sérieuses pour le reste de la vie. On vous écoute, papy. Quelle est votre contribution?
Ma solution est ceci. Moi, je n'ai qu'à demander à notre invité, parce que ici, c'est pas toujours au Kasaï, ici au Katanga, possiblement à l'écologie. J'ai l'un de mon beau-frère qui est souffrant de cette maladie-là. Malheureusement, il n'y a pas une solution, mais on nous disait qu'il faut chercher un produit traditionnel pour ça. Est-ce que ça serait mieux d'aller à l'hôpital encore, ou bien faut chercher un produit traditionnel, ou bien j'aimerais avoir quelque
Merci papy, c'est une préoccupation. Votre beau-frère est malade, on vous a dit que c'est de la méningite, et là, les gens vous conseillent de consommer les produits traditionnels. L'invité ne va pas tarder à vous donner la réponse à cette préoccupation. Il y a aussi Amani de Bukavu aussi de vous qui nous a écrit par l'adresse pa@radiokapi.net qui dit ceci: pour mettre fin à cet épisode, il faut que le gouvernement congolais mette en place les différentes ressources financières, humaines, matérielles et motiver aussi la population pour une participation active de la communauté. Sinon, la méningite prendra une grande ampleur dans cette entité et ça sera un échec gouvernemental. C'est-à-dire que notre ami Amani pense qu'il faut des moyens, comme d'ailleurs avait sollicité le ministre provincial de la Santé au Kasaï oriental, pour aussi impliquer la population dans la lutte contre cette maladie qui s'était déclarée sur place. On peut bien sûr essayer de pouvoir nationaliser cela. Nous allons prendre les derniers auditeurs de cette série. C'est Dominique qui nous appelle de Mbujimayi au Kasaï oriental. Dominique, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous avons abordé cette émission avec la méningite déclarée à Mulumba, du côté des Chiléniers. Je pense que vous connaissez bien le milieu.
Oui.
Et à ce jour, vous qui êtes en Mbujimayi, quelle est la situation sur le terrain? Est-ce que vous avez des nouvelles que les gens continuent il y a toujours ce problème, ou bien on a stoppé? Qu'est-ce qui se passe actuellement, si vous avez des nouvelles?
Rien n'est fait. J'étais à l'hôpital Bonzola, j'ai trouvé un enfant qui ne venait pas non plus de ce coin-là, mais qui m'a amené d'un autre coin voir le docteur Mutombo, qui est neurologue. J'ai trouvé qu'il y a un laisser-aller. Ici chez nous, la population se prend en charge elle-même. Hein, on se prend en charge nous-mêmes au Kassai, parce que vous savez, tout est provisoire au Kassai, il n'y a rien de sûr. Si le gouvernement central ne fait rien, sur place, rien ne sera fait. Donc, ce qui a été déclaré, c'est comme un cri d'alarme pour que le pouvoir central puisse les hôpitaux descendre et puisse agir. Quand sur le terrain, lorsque nous regardons, nous nous disons ceci, il y a démission totale de l'administration parce que toutes les conditions sont faites pour que cette maladie soit encore ravagée davantage. Le Kassai vit dans une insalubrité publique que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a trop de moustiques au Kassai qui ravagent avec des maladies. Lorsque nous prenons Kassai, c'est insalubre et à tout moment, je vous dis, toutes les conditions sont bonnes pour que cette maladie-là puisse encore aller loin au-delà des Bakouar et des Moulumba. Voyez-vous un peu l'enjeu.
Et Dominique, en attendant, bien sûr, les interventions, que ce soit le gouvernement national, le gouvernement, disons, central, le gouvernement provincial, vous pensez-vous que la population a aussi une part de responsabilité, un rôle à jouer pour mettre en fin à cela, pour lutter, pour prévenir? Pensez-vous vraiment que la population a aussi un rôle à jouer, Dominique?
Je vous dis ceci. Aucun gouvernement n'a jamais pensé à la population du Kassai. Cette population du Kassai a construit le Kassai par elle-même. Et pour le moment, par exemple, c'est toujours elle-même qui se prend en charge. Donc, à un certain moment, nous avons besoin que dissonance le niveau que cette maladie a atteint. C'est un niveau que la population elle-même ne peut rien faire. Il suffit maintenant de la main du pouvoir. Tant que l'administration ne fait rien, cette population, toujours, s'il vous plaît, elle se prend en charge.
Voilà. Dominique, on vous écoute, c'est vraiment un cri SOS, comme vous dites, lancé par les autorités provinciales de la santé, qu'il faudrait un tonus, un coup de main du gouvernement central pour lutter contre la maladie, mais aussi contre les autres conditions dans l'environnement qui peuvent faciliter la propagation de la méningite ou bien des autres maladies qui peuvent se déclarer. Merci Dominique, nous allons remettre la parole à notre invité tout juste pour commenter ces premières interventions des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Docteur Jean-Baptiste Songy, vous avez suivi là, il y a les responsabilités partagées comme les auditeurs l'ont indiqué. Il y a d'une part, comme Christian l'a dit, il faudrait sensibiliser les gens à consulter plus à l'hôpital quand ils se sentent mal à l'aise. Le papy d'écologie a posé la question de savoir s'ils peuvent consommer les substances traditionnelles aussi en cas de soupçons de méningite. Dominique Dembouzima, vous avez suivi un cri d'alarme. Et je veux ajouter aussi une question, c'est que la plupart des cas de menace se déclarent dans les milieux ruraux. Est-ce que, quand on regarde la politique sanitaire de notre pays actuellement, dans ces milieux ruraux, est-on vraiment, est-ce qu'on peut être vraiment outillé pour diagnostiquer et stopper la propagation de la méningite dans les conditions actuelles, docteur Songy?
Bah, écoutez, comme vient de le dire Dominique, qui a dit que son enfant a été consulté par mon ami docteur Moutombo, que je salue au passage, je pense que la problématique la plus importante, c'est que notre pays, oui, il insiste beaucoup sur le fait que la population du Kassai est sinistrée, mais je pense que c'est toutes les populations congolaises qui sont sinistrées. Maintenant, c'est parce que c'est au Kassai. Vous irez à l'Équateur, les gens de l'Équateur vous diront la même chose. Vous irez au Kivu, c'est la même chose. Vous irez dans le Banundu, c'est la même chose. Donc, c'est tout notre pays qui est sinistré. Et l'émergence de certaines épidémies telles que la méningite traduit justement ce caractère sinistré de tout le système sanitaire. Alors, il est évidemment sur le plan des principes, dans les pays normaux, effectivement, quand il y a une certaine, on dit voilà, lorsque vous commencez à avoir des maux de tête, vous faites la fièvre, dans un contexte où il peut y avoir, contexte d'épidémiologie, méningite, Alors, au lieu d'aller voir un centre de santé, mais où sont les centres de santé qui sont suffisamment bien équipés pour que ces gens puissent y rentrer? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est pour cela que la seule démarche raisonnable du ministère aujourd'hui, dès qu'il y a un foyer épidémique de méningite, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vacciner le plus rapidement possible. Et là, les vaccins existent. Donc là, le ministère de la Santé peut aujourd'hui mobiliser des équipes avec l'assistance, souvent malheureusement, de la communauté internationale, spécialement de l'Organisation mondiale de la santé, où on envoie des vaccins, on vaccine les gens, mais ils sont vaccinés. Vous éradiquez cette épidémie-là pendant ce temps-là. Le groupe des gens qui sont vaccinés, eux, sont protégés, mais cette épidémie, tôt ou tard, va se retrouver ailleurs et les choses recommencent. Donc, le problème, véritablement, est plus un problème de l'organisation de la société dans son ensemble qui est malade à tous les niveaux et que les émergences des épidémies comme celle de Belgique ne sont que l'une des manifestations du sinistre dans lequel vit notre pays. Alors, pour ce qui est des maladies, des traitements traditionnels, personnellement, je ne suis pas compétent dans les médicaments traditionnels. Je sais que ces médicaments, certainement, ça a un effet, mais je ne peux pas les quantifier. Mais la méningite est une maladie qui, dans les 72 heures, si n'a pas un traitement efficace, eh bien, la mort peut s'en suivre. Donc, moi, je préfère conseiller les gens à aller là où il y a des traitements sûrs qui donnent des résultats, plutôt que commencer à jouer avec le traitement traditionnel dont les preuves sont aléatoires. Donc moi, je ne conseillerais pas les gens à aller d'abord, si bien sûr ils ont la possibilité d'avoir un système médical bien équipé, avec du personnel qualifié, avec des médicaments outils, je préfère les envoyer là-bas. Mais malheureusement, les gens recourent au traitement traditionnel parce que justement, ces infrastructures manquent. Alors, notre ami de Mbanaka a dit à un moment donné, c'est la peau du ministère de la Santé. Mais oui, oui et non. C'est-à-dire que le ministère de la Santé, comme il fait partie de l'ensemble de ceux qui dirigent le pays à ce titre-là, oui. Mais il n'est pas responsable de l'émergence de la maladie, parce que quand vous regardez le budget qu'on affecte au ministère de la Santé, comme d'ailleurs d'autres ministères, il n'est pas tout à fait responsable. Il fait que courir vers une situation qui le dépasse et pour laquelle, manifestement, on ne sent pas qu'au niveau national, il y a une volonté de remédier à cette situation qui ne peut que se détériorer au jour le jour.
Docteur, la dernière question, c'est, vous avez évoqué la vaccination, la politique de vaccination contre la méningite, doit-elle être spontanée ou bien être insérée, sensibilisée dans la vaccination des routines comme on le fait avec la rougeole, la tuberculose et d'autres maladies?
Moi, je pense que, étant donné que notre pays est sujet à des poussées épidémiques de méningite, ça devrait faire partie d'une vaccination de routine. Mais là aussi, parce que la vaccination coûte beaucoup moins cher que la prise en charge de quelqu'un qui est atteint de méningite. Donc, le bon sens eût commandé qu'on privilégie absolument, ou qu'on privilégie de manière sérieuse la couverture vaccinale. Mais ça nécessite quoi? Ça nécessite que le système de santé fonctionne.
Voilà.
Il fonctionne, malheureusement, il ne fonctionne pas.
Merci. Merci beaucoup, Dr. Jean-Baptiste Sangy, pour nous avoir accordé votre intervention dans cette première partie des paroles aux auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste en santé et puis ancien ministre de la Santé. Merci beaucoup de nous avoir disponibilisé de votre temps.
Radio Capture est ici avec vous sur La Solution. En direct avec toute l'équipe de Paroles aux Auditeurs. Paroles aux Auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Paroles aux Auditeurs. Le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Capture.
Les paroles aux auditeurs se penchent ce mercredi sur la méningite. Cette maladie s'était déclarée au Kasaï oriental à Mulumba, dans les territoires des Tchiléniens, et en fait des décès plus de 30 cas de méningite. Cela préoccupe les auditeurs de Radio Capi et vous tous. Pourquoi nous réfléchissons ensemble sur les mesures qu'il faudrait prendre pour prévenir cette maladie. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir, mais n'hésitez pas. Nous sommes sur internet www.radiocapi.net et là, vous pouvez nous envoyer un message électronique à l'adresse pa@radiocapi.net. Mais ceux qui nous écoutent aussi en FM à travers la RDC ont la possibilité de former les 081-890-6315 pour donner leur point de vue par rapport à la prévention de la méningite. C'est comme Maître Augustin qui nous appelle de Kindou et Jean Bosco qui est à Lubumbashi. Maître Augustin, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous aurons un deuxième intervenant dans cette édition, ce docteur Dieudonné Mwamba, qui est le chef de division de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé, qui pourra aussi parler en termes, bien sûr, des mesures qui sont prises au niveau de cette structure pour lutter contre la méningite. Et nous vous donnons la parole, vous qui êtes à Kindou, vous avez suivi les uns et les autres. Quel est votre niveau de perception du problème, votre contribution pour revenir cela?
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Étant donné que nos médecins, les différents docteurs, ne font pas de suivi lorsqu'il y a des vaccinations. Or, toute maladie est préventive quand on fait une vaccination. Mm-hmm. Moi, je venais de quelque part dans le territoire de Kibombo, là où j'ai assisté à une vaccination des enfants de poliomyélite. Il faut voir comment les infirmiers sont en train de blaguer avec la vaccination. Donc, ils sont en train de tromper leurs médecins dans la zone de santé de Tunda. Ils trompent les médecins qui veulent vacciner les enfants alors que c'est faux. Donc, après avoir quitté les matins avec le vaccin, ils doivent aller laisser ça n'importe où pour tromper les médecins sur des zones qu'ils ont vaccinées.
Mmh. Et Maître Augustin, Oui, revenons d'abord à ce que vous venez de dire. Parce que ça, quand même, Maître Augustin.
Oui, merci, monsieur le journaliste.
On peut d'abord faire. Oui, c'est un échange. Voilà, c'est un échange, on s'écoute, c'est un échange parole aux auditeurs. Parce que l'information que vous avez livrée dans votre intervention, elle est très importante quand même, le fait que vous puissiez découvrir que les infirmiers, bien sûr, on ne parle pas de la polio, mais qui sont partis pour vacciner, et jettent le vaccin et trompent le médecin. Et ça, c'est une information extrêmement importante. Vous êtes maître, je pense, bien sûr, vous êtes le domaine judiciaire, c'est ça.
Oui.
Et quand vous avez découvert cette pratique, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est important, on a besoin de vacciner les enfants. Et vous vous rendez compte que le vaccin n'a pas été utilisé, on a trompé dans les rapports. Et quelle a été votre attitude et quelles sont les démarches que vous avez menées par rapport à ça? Parce que c'est la vie de l'enfant qui...
Nous avons approché le médecin chef des hommes. Mm-hmm. Donc comme ils sont dans les rouages de la magouille, les infirmières en question ont nié, ont rejeté en bloc toutes les accusations, étant donné que la vaccination c'est une opération de l'argent. Alors le médecin a jugé bon que j'ai calomnié les infirmiers, alors qu'il y avait des vrais faits.
Voilà, termine rapidement, oui.
De ce que nous faisons. La conscience est plus importante au lieu de chercher seulement l'argent. Déjà c'est bon, nous touchons l'argent, mais d'abord de se borner pour ce qui est l'intérêt humain ou l'intérêt social.
Voilà, merci beaucoup, maître Augustin. Bon, tout ça, c'est un peu aussi compliqué à vérifier la situation évoquée, que vous avez évoquée par rapport à la vaccination. Mais dis-moi, vous souhaitez vraiment que les gens puissent être conscients dans le travail. Ça peut être bien. Nous avons maintenant en ligne docteur Dieudonné Mwamba. Docteur Dieudonné, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de division de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Et nous serons avec vous dans cette émission pour la dernière partie, qui est plutôt mesure à prendre pour prévenir la méningite. Nous vous gardons en ligne le temps d'écouter un auditeur qui est là. C'est beau, Jean Bosco, qui nous appelle de Lubumbashi. Jean Bosco, bonjour. Jean Bosco, vous êtes en ligne, bonjour. Apparemment, on a perdu la ligne de Jean Bosco. Docteur Dieudonné, nous revenons à vous. Nous avons évoqué ce sujet parce qu'il y a eu au Kasaï oriental, dans les territoires des Tiléniers, il y a deux semaines, des cas de méningite déclarés. Et nous voulons en profiter pour en parler avec les auditeurs. Quelles sont les mesures qui doivent être prises en principe pour lutter contre cette maladie ou aussi la prévenir? Vous êtes à la division de l'expérience épidémiologique. Peut-être la première question, c'est la situation sur le terrain. Est-ce que la méningite est une grande préoccupation? Est-ce que ça revient régulièrement à travers les localités de la RDC ou c'est des fois aussi isolé à travers les pays quand vous regardez la carte sur le terrain?
Oui, merci, monsieur le journaliste de la question. La situation de méningite au niveau de la RDC, elle est bien connue au niveau du ministère de la Santé. Mm-hmm. Et au niveau de la direction de lutte contre la maladie, où je m'occupe de la prévention épidémiologique, c'est une maladie que nous surveillons de façon hebdomadaire.
Mm-hmm.
Et ça figure parmi les 14 maladies à potentiel épidémique que le pays a retenues pour une surveillance hebdomadaire. Donc c'est pour dire que c'est un problème qui est connu au niveau du pays et nous avons mis en place un système de surveillance de façon permanente, continue, de cette maladie-là. Et pour revenir à la situation de la zone santé de Mulumba, nous sommes bien informés, nous avons eu cette information au niveau de la direction de lutte contre la maladie, parce qu'il faut savoir que nous avons nos services qui sont au niveau de la province, avec lesquels nous sommes régulièrement en contact. Et pour ce qui est de la situation de Mulumba, effectivement, il y a des cas de méningite qui ont été notifiés il y a deux semaines, comme vous l'avez dit. Et on a dû faire des fonctions lambert, c'est un certain cas suspect. Et les premières informations, une fois que je venais, c'est que c'est le liquide céphalo-rachidien est clair.
Voilà.
Donc c'est un liquide qui est clair.
Mmh.
Et ce qui nous pousse à croire que, bon, ce n'est pas une épidémie, donc on ne peut pas déjà dire que ce serait une épidémie, mais c'est le système de surveillance qui a pu capter ce cas-là. C'est des cas suspects. Nous les appelons encore des cas suspects de méningite. Mmh. On a fait des prélèvements. On va les envoyer au laboratoire pour la confirmation. La confirmation, mais le liquide céphalo-rachidien déjà qui donne une idée macroscopique, une idée d'orientation, parce que le liquide est clair.
Mmh.
Donc, nous ne sommes pas en épidémie.
Voilà. Et,
Oui.
Et oui, docteur Dieudonné Mwamba, vous avez dit qu'ils ne sont pas en épidémie. Bon, quand il y a quand même des cas qui se déclarent comme ça, quelles sont les mesures urgentes qui sont prises pour contrer, éviter que cela ne puisse se propager? Qu'est-ce qui peut être fait localement? Parce qu'on a eu un premier auditeur de Mbujimaï, Dominique, qui a lancé un SOS au niveau du gouvernement central pour assister les structures de Mbujimaï et éviter que la maladie puisse se propager.
Oui, quand il y a des cas comme ça qui sont déclarés, il y a des mesures qui sont prises, qui sont mises en place. Les premières mesures, c'est que nous renforçons la surveillance. Nous renforçons la surveillance pour que on puisse utiliser la définition des cas de méningite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des cas comme ça, des cas suspects, il faut savoir aussi que par rapport à notre système de surveillance, ça peut être des cas de palus graves. Ça peut être aussi des cas de palus graves que les infirmiers peuvent confondre avec la méningite. C'est pourquoi nous leur demandons de renforcer la surveillance et bien utiliser d'abord la définition des cas qu'on leur a donné de méningite pour ne pas confondre méningite avec des cas de paludisme grave.
Voilà.
Que ce sont des cas qui apparaissent chez les enfants. Il faut savoir que la plupart de ces cas, c'est chez les enfants. Et il y a possibilité qu'on confonde les cas de méningite et de paludisme grave. Donc, ça, c'est des mesures qu'on a mis en place pour renforcer cette surveillance. Et les cas qui sont déjà déclarés, on les prend en charge. Il y a la prise en charge. Nous avons parlé avec notre équipe provinciale pour qu'on achemine des médicaments au niveau de cette zone de santé pour prendre en charge les cas qui sont déjà déclarés.
Docteur Dieudonné Mwamba, nous vous gardons en ligne dans cette émission pour cheminer avec les auditeurs jusqu'à la fin. Mais prenons le docteur Benoît Kabela, directeur du 4 bureau en charge de la surveillance épidémiologique, je crois bien, au ministère de la Santé. Et docteur Benoît, vous allez lancer le message aux auditeurs parce que nous les avons eus, nous voulons bien les impliquer dans la lutte contre la maladie. Et quelle peut être leur part des responsabilités? Qu'est-ce que la population peut faire pour contribuer à la prévention de cette maladie? Les données techniques, on les a eues avec Dr Dieudonné Mwamba, qui pourra peut-être commenter avec nous jusqu'à la fin. Mais Dr Benoît, le message qui peut être adressé à la population pour savoir leur niveau d'implication dans la prévention de la maladie, comme la méningite par exemple, parce que c'est de celle que nous parlons aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, il faut d'abord comprendre que la méningite, qui est l'inflammation des méninges, les méninges, les enveloppes du cerveau, il y a plusieurs étiologies. Vous avez les méningocoques, vous avez les bophylis inclus sur les enfants, vous avez les pneumocoques. Bon, le plus, beaucoup d'épidémies sont d'origine des méningocoques. Ça, c'est l'épidémie de méningite qu'on trouve chez l'adulte, chez l'adulte jeune. Mais les enfants, souvent, ils font la méningite à hémophilus influenzae. et même la méningite à pneumocoque, la forme épidémique, je dis la forme épidémique, parce que vous avez la forme sporadique, où vous avez des cas partis par l'année, du 7 Kinshasa, on rencontre ça. Donc, que faut-il faire? Je crois que c'est notre moment où vous avez expliqué le système de surveillance qu'on a mis sur place, qui permet à la détection précoce des cas pour la prise en charge rapide. Bon, si une personne a des cibles méningites, bien sûr qu'on a expliqué que j'ai suivi les professeurs de sujet, c'est d'aller vite à un centre de santé, on va vous prendre la charge.
Okay.
Si c'est la forme épidémique, c'est ici qu'on fait une grande population. Nous avons au niveau des structures de soins, ils ont des fusions de cas, ils ont même le seuil épidémique. C'est quoi? Quand vous avez le doublement des cas d'une semaine à l'autre pendant 3 semaines consécutives, là on déclare l'épidémie, et puis avec la ponction lombaire, on trouve ces 15 germes, et là on voit ce qu'elle va se réutiliser. Mais non, chez les enfants. Actuellement, chez les enfants, nous avons une chance parce que l'épidémie, la méningite a hémoflué, ce qui fait beaucoup de désastres chez les enfants de la pneumocoque. Mais nous, au niveau des pertes de routine, nous avons introduit les vaccins contre l'hémoflué qui est plus bien, c'est pas une année. Je crois que le mois prochain, on va introduire même les vaccins à pneumocoque. Si les parents amènent les enfants au pertes de routine, on n'aura pas des cas d'épidémie de méningite, on n'aura pas des cas de méningite. Mais tant que nos parents n'amènent pas les enfants au père de l'origine, c'est ça le problème qui se passe maintenant même avec la poliomyélite. Nous avons partout, au niveau de tous les centres de santé, et les peuples veulent organiser les vaccins, mais les parents n'amènent pas les enfants à la vaccination. Donc vous avez la couverture qui est basse, vous n'êtes pas étonné qu'on voit les cas de poliomyélite, c'est la même chose que même les cas de méningite à mon fils et bien.
Voilà,
il y a la forme épidémique chez l'enfant.
Merci beaucoup, docteur, pour ce message de sensibilisation aussi. Les gens doivent consulter plus vite et aussi les gens doivent se rendre à la vaccination. Quel est l'état de la méningite, de la polio, de la rougeole? Les gens doivent être sensibilisés, ils doivent prendre cela au sérieux. Merci beaucoup, docteur Benoît Kabela. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du 4e bureau en charge de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Nous continuons cette émission avec les auditeurs, hein, comme Witness et Kirumba, mais nous gardons les docteurs de Denis Mamba en ligne jusqu'à la fin. Witness, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Kirumba, au nord Kivu. Vous avez suivi les explications données par Dr Benoît Kabela, les explications données par Dr Dieudonné Mamba, qui est en ligne pour le moment avec nous. Et quelle est votre contribution par rapport à cette maladie et ce qu'il faut faire, par exemple, à Kirumba pour que la prévenir, et même si jamais il y est, pour qu'on puisse mettre fin à cela, Witness?
Oui, moi, comme je suis aussi à Kirumba, c'est tellement difficile de détecter cette maladie parce que la plupart des gens souffrent de cette maladie et parlent bien à mourir parce que peut-être il n'y a pas de spécialiste pour, en tout cas, essayer de détecter cette maladie. Parce que, par exemple, le jeune garçon qui a été attaqué par cette maladie et actuellement il reste sourd-muet, or il parlait auparavant. Mais la maladie qui n'était pas détectée auparavant, justement, s'est manifestée après. Maintenant, les signes sont venus. C'était maintenant être sourd-muet et il ne parle pas. Donc, absolument, comme à Kirumba, les gens meurent. Il y a d'autres qui sont des sourd-muets parce qu'il n'y a pas de personne capable à détecter cette maladie-là.
Voilà, merci Dieudonné de Kirumba. Votre préoccupation, c'est le manque de compétences dans le milieu où vous êtes, par exemple, pour détecter rapidement la méningite. Nous avons aussi reçu un message par l'adresse pa@radiocapi.net. C'est Jafet Kasserika qui est à Boutembo, au nord Kivu. Pourquoi les cas pareils se présentent en RD Congo? Pourtant, l'article 42 de la Constitution stipule que les pouvoirs publics ont l'obligation de protéger sa population contre toute atteinte à sa santé d'abord, ensuite à son éducation et enfin à son développement intégral. Pour lui, il pense que quand la santé est touchée, ce sont les activités de l'homme qui sont déstabilisées, mais il sensibilise pour que les pouvoirs publics prennent en charge ceux qui sont malades. Nous avons aussi Thérèse Badikana d'Ecolusi, elle nous écrit par la même adresse, elle dit ceci: comment éviter la méningite et si elle atteint seulement les enfants, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? C'était une question, mais les invités ont expliqué que ça touche et les adultes et les enfants. On va donner la parole au docteur Dieudonné Mamba tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Docteur Dieudonné Mwamba, vous avez suivi l'inquiétude de Witness de Kirumba. Ça a aussi été le cas d'un auditeur qui a voulu savoir qu'est-ce qui s'est fait au niveau du ministère pour aider à renforcer les capacités des opérateurs médicaux, si on peut les appeler ainsi, hein, dans les milieux les plus reculés, parce que la plupart des cas de méningite qui se déclarent des fois, c'est dans les milieux ruraux où il se pose peut-être un problème de prise en charge, de compétences. Et comme l'a dit Witness, au niveau du ministère, qu'est-ce qu'ils s'organisent pour aider en ce qui concerne le renforcement des capacités de corps soignants dans ces milieux réguliers pour leur permettre de détecter rapidement et aussi prendre en charge les cas de méningite?
Oui, merci de la question. Par rapport à l'auditeur de Kirumba, j'aimerais lui répondre en disant que effectivement, au niveau de la direction de lutte contre la maladie du ministère de la Santé, pour cette année, nous avons planifié une série de formations au niveau pratiquement de toutes les provinces. C'est-à-dire, nous avons planifié de construire un pool de formateurs au niveau de chaque province qui pourront aller former au niveau des zones de santé respectives de chaque province. Parce que on a compris effectivement qu'il y a un besoin de renforcement des capacités. Ça c'est vrai, c'est notre auditeur est relevé. D'autant plus que le personnel de santé est mobile dans notre pays, c'est que les personnes qu'on a déformées il y a 3-4 ans, ils ne sont plus à leur poste, donc ils ont changé, ils sont allés ailleurs. Il y a un nouveau personnel qui était arrivé et qui a besoin de renforcement de capacités. Donc, nous avons déjà planifié ces formations-là que nous allons mener au niveau, au courant de toute cette année, au niveau de toutes les provinces. Et, une chose encore, au-delà de la formation, nous avons prévu aussi qu'on renforce avec des supervisions formatives. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faut aller assister les personnels soignants au niveau de leur poste de travail pour voir comment ils détectent ces cas. Parce qu'on s'est rendu qu'il n'y a pas seulement de problèmes dans le traitement, même dans la détection déjà. Ils veulent que nos personnels soignants soient capables de détecter des cas de méningite sur base de la définition des cas qu'on leur a donné. Donc ça nécessite une formation, un renforcement de capacités par rapport à cela. Et nous l'avons déjà planifié pour cette année au niveau de la direction de lutte contre la maladie du ministère de la Santé. Donc, et ce que je voulais lui dire, quand il dit qu'il est arrivé au centre de santé, il n'a pas trouvé de personnel compétent, tout ce qu'on lui a dit, quand il est malade, il faut l'amener au centre de santé. S'il se rend compte qu'au centre de santé, la prévention n'est pas correcte, il ira à l'hôpital général dans la zone santé où il est.
Voilà.
Donc il ne peut pas se limiter juste au centre de santé, bien qu'il n'y a pas de compétences, non. Parce que dans chaque zone de santé, nous avons du moins aussi un hôpital général de référence, qui est à mesure de, au moins là, nous trouvons des médecins, des personnels qualifiés, qui sont capables de prendre en charge correctement des cas de méningite.
Docteur Dieudonné Mwamba, le docteur Sonji, même le docteur Benoît Kabela ont évoqué le problème de la vaccination. Quand on regarde quand ça touche à la vaccination, on dirait que on sensibilise plus les autres vaccinations comme la rougeole, la polio, tout ça. Mais apparemment, le vaccin contre la méningite est inséré, les gens n'en connaissent pas tellement. Quelle est la procédure en ce qui concerne le vaccin contre la méningite? Parce qu'apparemment, beaucoup de gens ne sont pas informés de cela quand on les écoute et puis on observe.
Oui. Par rapport à la vaccination, comme le directeur vous l'a dit, le docteur Benoît Kébéla, on l'a introduit dans la vaccination de routine, la vaccination contre la méningite. Ce n'est pas une vaccination qui se fait en dehors de la vaccination de routine. Donc la sensibilisation, effectivement, on peut informer et sensibiliser les parents qu'ils suivent le calendrier vaccinal de routine. Parce que c'est dans ce calendrier vaccinal de routine où on a introduit la vaccination contre la méningite. Ce n'est pas une vaccination qui se fait à part. Donc, c'est-à-dire qu'on amène l'enfant pour recevoir son vaccin contre la polio, contre la coqueluche, contre la diphtérie. Donc, c'est pendant à ce moment-là qu'il reçoit aussi le vaccin contre la méningite. Parce que maintenant, le vaccin, c'est un pentavalent.
Donc, c'est un vaccin qu'on donne, mais qui lutte contre cinq maladies dont la méningite qui est déjà incorporée.
Mais c'est à qui
on doit passer aux parents. Donc, ils doivent respecter le calendrier vaccinal et amener leurs enfants à chaque rendez-vous de vaccination. Et ça fait rendez-vous-là que l'enfant recevra aussi le vaccin contre la méningite.
Et les vaccins
intégrés avec votre vaccin.
Et il est inséré à quel âge, docteur? À la naissance ou bien 6 mois, 9 mois, 3 mois? Et si on peut avoir une précision?
Oui, c'est le vaccin qui est déjà à 6 semaines après la naissance. Donc, quand l'enfant reçoit la première dose de l'ITC.
Voilà.
Parce que maintenant, on parle de pentavalent. Donc, il reçoit le DTC et puis on ajoute aussi les IBE, les hémophilus. Les hémophilus contre les méningites de forme hémophilus influenza qui surviennent beaucoup chez les enfants. Donc, c'est à 6 semaines déjà que l'enfant va recevoir sa première dose de vaccin contre la méningite, au même moment qu'il reçoit contre la diphtérie, contre la coqueluche.
On vous garde en ligne, docteur. Il y a aussi Kakouli Décalémi, Sribi qui est à Guéménan, qui vont aussi intervenir. Nous tendons vers la fin de la première partie de cette émission à 11h pour revenir en deuxième partie et conclure. Kakouli, Sribi, vous aurez la parole tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Kakouli, bonjour.
Bonjour, Pierre Lamendi, je salue tous les auditeurs de Radio Okapi.
Vous avez suivi les explications de notre invité, les préoccupations des auditeurs pour les mesures qu'il faut prendre afin de prévenir la méningite. On vous écoute, Kakouli.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole. Si aujourd'hui la méningite continue à tuer beaucoup de gens, cela est dû à la non-spécialisation du personnel soignant. Je voudrais dire par là que beaucoup de médecins, s'il vous plaît, et même beaucoup de personnels soignants, ne sont pas formés, ou bien sont des généralistes. Il n'y a pas de spécialistes, surtout ici chez nous au Congo. Vous allez passer dans beaucoup d'hôpitaux, ou dans beaucoup de centres de santé, vous allez trouver là-bas, il n'y a que des généralistes. Qui découvrent difficilement les symptômes de la méningite. Ils ne sont que certains. Comme proposition, il fallait former des gens et les spécialiser, comme on fait pour le cas de gens qui se spécialisent pour la tuberculose, la lèpre et consorts. En plus de cela, il fallait aussi la vaccination, comme les prédécesseurs l'ont souligné.
Voilà, merci. Kakouli, vous proposez la formation, la spécialisation et aussi la vaccination. Ça a été déjà évoqué par les autres auditeurs qui ont pensé qu'il faut renforcer les capacités du personnel soignant. Notre invité, le docteur Dieudonné Mwambalabi, qui a déjà eu une planification pour cette année de formation, de renforcement des capacités pour les personnels soignants dans la prise en charge de la méningite. Merci beaucoup, Kakouli. Vous êtes à Calémi. Freddy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Guéménat, dans la province de l'Équateur. On vous écoute, Freddy.
Ok, j'ai des questions à l'endroit de mon question. La première, c'est par rapport à ce que tu entends parler de la méningite. Qu'est-ce que ça veut dire?
Freddy, vous sortez entrecoupé. Freddy, on n'a pas bien suivi votre question. Essayez de vous déplacer un petit peu et reposer la question. Vous avez dit qu'est-ce qu'on entend par la méningite? Complétez votre phrase.
Je parle de la méningite.
Vous parlez, vous voulez savoir ce que ça veut dire la méningite décapitée. Voilà, ça c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation.
La deuxième préoccupation, c'est par rapport à la préoccupation de la méningite. Que la méningite décapitée, c'est le
ciel. Voilà, le problème de ligne ne nous permet pas de suivre la deuxième question, Freddy. C'est ici la ligne avec Guéménat. Et reposez la deuxième question, tout en vous déplaçant, la liaison téléphonique peut s'améliorer un peu. Allez-y, Freddy.
Ok, la deuxième question, c'est par rapport à la question de la méningite. La méningite présente des complications. Oui, c'est la loi.
Voilà, là, c'est vraiment perdu, on a perdu. On n'a pas suivi la dernière fois, c'est difficile, mais nous allons donner la parole au docteur Dieudonné Mwamba, qui a suivi la préoccupation des Kakouli par rapport à la spécialisation, qu'on ait beaucoup de gens spécialisés dans la prise en charge de la méningite. Et il a aussi posé, Freddy de Guéménalu, vous voudrez savoir ce que dire la méningite décapitée. Mais bien avant que le docteur Dieudonné parle, Jean, vous êtes ici, bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Jean. Quelle est votre contribution dans cette émission?
Ok. Mais moi, je voulais seulement proposer une seule chose.
Mm-hmm.
Que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la méningite, mais je ne sais pas, peut-être ils ont honte d'aller faire les examens ou les dans les hôpitaux.
Mm.
Je voulais demander à ce que le gouvernement ou bien le ministère de la Santé puisse vraiment faire une sensibilisation face au problème de la méningite. Parce que vraiment, je connais beaucoup de gens qui en souffrent, mais ils trouvent des traitements traditionnels. Et avec les produits traditionnels, souvent, bon, ça n'amène pas à une guérison parfaite.
Mm-hmm.
C'est pas important. Alors, je voulais faire qu'on puisse, en tout cas, faire une grande sensibilisation pour que la population plus de l'essentiel ou de l'importance plutôt de l'examen de la méningite.
Mm-hmm.
Il y a beaucoup de gens qui en souffrent, mais qui ne savent même pas peut-être où aller pour se faire soigner.
Merci beaucoup, Jean de Kinshasa. Docteur Dédoné Mombo, vous avez suivi les trois auditeurs. Kakouli insiste beaucoup sur les gens spécialisés dans la détection de la maladie. Freddy de Guéménal, on n'a pas pu entendre la deuxième question, mais la première, il voudrait savoir, appelle-t-on méningite décapitée? Et Jean de Kinshasa, lui, insiste aussi sur la sensibilisation, parce que beaucoup de gens recourent à la consommation des substances traditionnelles, et lui, il voudrait qu'on renforce vraiment la sensibilisation pour que les gens se rendent à l'hôpital. On vous écoute.
Oui, merci à tous les auditeurs qui sont intervenus. Par rapport à Kakouli, qui demande à ce qu'il y ait une spécialisation du personnel par rapport à la méningite. Bon, il faut savoir qu'au niveau du pays, nous avons maintenant une stratégie qui est en place par rapport à la surveillance. Nous faisons une surveillance intégrée des maladies.
Mm-hmm.
Et la riposte. Donc, c'est une stratégie qui est mise en place au niveau du pays en collaboration avec l'OMS.
Mm-hmm.
C'est une stratégie qui s'applique à la plupart des pays africains. Donc, c'est une surveillance intégrée de toutes les maladies, notamment les maladies à potentiel épidémique, je voudrais dire une bonne entente 14, dont la méningite, que nous surveillons au niveau du pays.
Voilà.
Donc, nous voulons donner des compétences pour la surveillance de toutes les maladies.
Mm-hmm.
Hein, on ne peut pas juste insister sur la méningite. Bien sûr, il y a la méningite, mais aussi les autres maladies. Nous avons la rougeole, nous avons la polio. Hein? Alors, toutes les maladies, nous voulons que le personnel de santé se trouve au centre de santé. Parce que c'est là la porte d'entrée dans notre système de santé.
Voilà.
C'est le centre de santé.
Mmh.
Nous voulons que le personnel qui est à ce niveau-là, à la porte d'entrée de notre système, soit capable de détecter la méningite et les autres maladies.
Voilà.
Mmh. Donc, on ne va pas en faire un infirmier juste pour la méningite.
Mmh.
Non, parce qu'il doit être capable de détecter la méningite et bien la fournir,
voilà.
Mais peut-être aussi les autres maladies.
Mmh.
Donc nous prenons plus une intégration. Donc on n'est pas dans la spécialisation par maladie
voilà.
Au niveau du pays.
Et l'autre ami de Guéména.
Par rapport à Tony de Guéména, qui parlait de
méningite
décapitée, je voulais juste savoir ce que ça aussi. Bon, la méningite décapitée, c'est quand on n'a pas été consulté, vous avez des signes de la maladie. Et vous prenez un traitement qui n'est pas adéquat, et vous arrivez juste à mettre fin à quelques syndromes, mais sans toutefois soigner correctement la maladie.
Mmh.
Donc la méningite décapitée, pour le commun des mortels, donc une méningite qui n'a pas été bien traitée, dont on n'a pas suivi le traitement soit juste à la seule, ou on n'a pas pris des médicaments appropriés.
Mmh.
De telle sorte que on semble avoir soigné la maladie, mais on ne l'a pas soigné correctement.
Voilà.
Je sais qu'après un temps, la maladie va revenir encore plus foudroyante qu'avant.
Mmh. Et docteur, pour compléter aussi Jean de Kinshasa qui a insisté sur la sensibilisation, que la population consulte, on en a beaucoup évoqué. Je voudrais aussi ajouter la question de la vaccination par rapport aux adultes, parce qu'ici on a intégré le vaccin contre la méningite dans la vaccination de routine, mais quand il s'agit des adultes, est-ce qu'il faudrait se faire vacciner, ou attendre quand on a besoin de voyager, ou attendre quand il y a une épidémie qui se déclare quelque part? Est-ce qu'un adulte peut se rendre aujourd'hui dans un centre de santé volontairement pour demander à être vacciné contre la méningite?
Bon, par rapport à Jean de Kinshasa, effectivement, la sensibilisation, c'est un des moyens extrêmement efficaces de phénomènes qui nous prenons, nous mettons en place pour la prévention de la méningite. Donc, sensibilise les parents, toutes les personnes, de fréquenter les centres de santé
dès qu'ils ont des signes de la maladie. Mmh. Donc ça, c'est vraiment le message que nous apportons pour à toute la population. Mmh. Mais spécialement pour les adultes, pour vacciner les adultes, il faudrait qu'on soit en mesure de dire que nous sommes dans une phase épidémique.
Voilà.
Nous avons la méningite épidémique, une phase à laquelle on doit riposter. Et face à ça, on met une stratégie pour vacciner toute une population qui est concernée par cette épidémie. Parce qu'on ne peut pas commencer à vacciner juste une personne qui vient comme ça, qui demande un vaccin contre la méningite.
Voilà.
Mais chez les enfants, dans le cadre de la prévention, nous avons introduit ça dans la vaccination de routine.
Mmh.
Et là, nous vaccinons tous les enfants qui sont en âge de vaccination. Et là, nous recommandons les parents d'amener régulièrement leurs enfants qui sont en âge de vaccination au centre de santé pour recevoir ce vaccin.
Mmh. Et voilà, docteur Denis Mwamba, nous vous gardons en ligne pour la deuxième partie de l'émission qui est aussi notre conclusion parce que le mercredi, l'émission Parole aux auditeurs, c'est en deux temps. Juste après le flash d'information, on pourra vous donner la parole pour écouter les deux derniers auditeurs et conclure cette émission. Mais nous lisons aussi un message qui nous est envoyé par Denard Longwa, géologue à Manono. Il dit ceci, nous avons enterré une cousine d'un ami géologue il y a deux jours à Manono, déclarée morte de la méningite. Mais le docteur Mwamba, à l'introduction de son propos, il a parlé aussi du paludisme grave. Comment on peut distinguer la méningite du paludisme grave? Comment on peut distinguer les deux maladies? Docteur, nous avons juste une minute, je crois, et demie. Ça peut vous permettre de répondre à cet auditeur et lui donner aussi la suite après les pêches d'information. Il voudrait savoir la différence entre la méningite, les symptômes de la méningite et du paludisme grave.
Ok, merci pour notre auditeur de Manon. Alors, de façon rapide et succincte, apparemment, les signes de méningite se confondent avec le paludisme grave.
Mm-hmm.
Hein? Souvent, quand on n'est pas suffisamment bien expérimenté, on peut confondre la méningite et le paludisme grave. Parce que dans les signes de méningite, de paludisme grave, nous recouvrons la plupart des signes qui sont dans la méningite. C'est pourquoi, même quand on a des confusions à ce niveau-là,
mm-hmm.
on peut recourir à d'autres examens paracliniques pour arriver à faire la distinction. Parce que de façon clinique, les signes sont presque les mêmes. Dans la chaise, nous avons les troubles de conscience, la raideur de nuque. Chez les enfants, pour la méningite, on peut avoir la fontanelle et les autres signes méningés.
Mmh.
Alors, chez l'adulte, surtout, on a les autres signes méningés, notamment les signes de Sternig, les signes de Brodowski.
Voilà,
les cliniciens avec ces signes,
Peuvent arriver à différencier
la méningite. La fonction dans le verre qui doit intervenir.
Voilà, docteur Guédenon, on vous garde en ligne. Le temps d'écouter le flash d'information des Radio Capi. Et nous allons revenir tout juste après. Il y a aussi Henri qui nous appelle de Colisie. Henri, vous gardez aussi la ligne tout juste après, on va vous donner la parole.
Radio Capi est ici avec vous sur la solution. En direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons, proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h, lors de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Kassi.
Merci pour ce flash d'information de Radio Kassi. Parole aux auditeurs, continue.
Parole aux auditeurs.
Et c'est mercredi, nous nous penchons sur la méningite, les mesures qu'il faut prendre pour prévenir cette maladie. Plusieurs auditeurs sont intervenus, et aussi les spécialistes de la santé. Mais nous gardons en ligne docteur Dieudonné Mwamba, qui est le chef de division de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Docteur, on pourra vous donner la parole pour conclure. Le temps qu'Henri de Colisie et Jeanne Décalémie s'expriment aussi autour de cette question. Henri, bonjour.
Bonjour, M. Jean-Luc. Bonjour, Alain-Victor.
Vous êtes à Colisie au Katanga. Quel est votre niveau de contribution dans cette émission pour la prévention de la méningite?
Ok, je vais poser une question à Jean-Luc, s'il vous plaît.
Mm-hmm, allez-y.
Où est-ce que vous pouvez nous distinguer la méningite à la tétanomoise, puisque on sait que tous les maris sont diagnostiqués sur les bases de la console lombaire.
Mm-hmm.
Et on ne détecte n'importe quoi comme de la méningite. Oui.
Allez-y, vous avez demandé que les docteurs vous vous distingue la trypanosomiase et la méningite parce que les deux maladies sont diagnostiquées à partir de la ponction lombaire. Bon, vous vous rendez compte que beaucoup de gens déclarent n'importe quoi la méningite dans votre milieu. C'est ça, Henri?
Ok, ok. Et quel est le nombre d'éléments dans les globules blancs qu'on peut trouver dans l'étude pour pouvoir étudier pour déclarer la méningite?
Ça devient trop technique. Hein. Et je comprends peut-être que Henri est du domaine médical. Je voudrais savoir le nombre de globules blancs qu'on peut trouver dans l'équipe céphalo-rachidien pour déclarer que la personne a la méningite. Merci beaucoup, Henri. Eugène, on vous écoute. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Et donc, ma préoccupation, c'est tout justement de savoir la source de cette maladie méningite. Je voulais tout justement demander si c'est un autre invité.
Vous voulez connaître la source de la méningite. Merci beaucoup, Eugène de Calémy. Je crois qu'il y a un autre auditeur, c'est Jean-Pierre. Vous êtes en ligne, Jean-Pierre. On va vous donner aussi la parole. Je crois peut-être que ça sera le dernier cette fois, ça sera le dernier auditeur de l'émission. Et Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, Radio Okapi, et bonjour à notre invité.
Donc vous êtes en Boujimaï, au Kassai Oriental. Nous terminons déjà par les auditeurs. On vous écoute, Jean-Pierre, par rapport à la méningite.
Ah oui. Comme la méningite, c'est une maladie qui tue les enfants congolais, est-ce que le médecin, le docteur, on ne peut pas planifier une campagne de vaccination comme on le fait pour la poliomyélite pour vacciner tous les enfants congolais au même moment?
Voilà. Merci pour la question, docteur Dieudonné Mwamba. Vous avez suivi les trois derniers auditeurs, hein, c'est en plus de préoccupations. Henri Descolosi, apparemment, c'est l'étude domaine médical, il a voulu savoir la différence entre la trypanosomiase et la méningite, parce que beaucoup de gens déclarent n'importe quoi méningite là où il est. Et c'est trop technique, hein. Combien de globules blancs faut-il avoir dans un liquide céphalo-rachidien pour déclarer la méningite? Et puis, jeune de Calémy voudrait savoir la source de la méningite. Et Jean-Pierre de Boujimaï, pourquoi ne pas organiser aussi une campagne des masses, hein, comme on le fait avec la poliomyélite contre la méningite? On vous écoute et cela vous conduit jusqu'à la conclusion dans 5 minutes, docteur Dieudonné Mwamba.
Oui, merci pour toutes les interventions de nos auditeurs. Ça manque d'intérêt pour le sujet. Par rapport à un premier intervenant qui veut savoir la différence entre la méningite et la trypanosomiase, effectivement, dans la méningite, c'est par rapport à la trypanosomiase, c'est dans les gènes qu'on trouve dans le liquide céphalo-rachidien. Parce que dans le liquide céphalo-rachidien, on pourra trouver des entérobactéries qui sont là, des gens de méningocoque, pneumocoque ou hémophilus influenza. Et par rapport à sa question de savoir le nombre
de globules blancs,
il faut savoir que quand on fait la numération formule sanguine, on retrouve une vraiment hyper leucocytose. Donc c'est une augmentation exagérée des globules blancs, au-delà de 10 000, c'est ce que je pense. Mais c'est une hyper leucocytose au niveau de la formule de numération sanguine. Et par rapport à la trypanosomiase, en fait là on recherche une maladie parasitaire. Donc on va trouver le trypanosome qui se retrouve au niveau de ce liquide céphalo-rachidien. Donc le diagnostic est plus facile là-bas. C'est le trypanosome qu'on va mettre en évidence.
Voilà.
Alors pour la deuxième question de la source d'infection par rapport à la méningite.
La méningite, oui.
Ce que notre auditeur peut retenir, c'est que pour la méningite, il y a plusieurs sources de contamination. On peut avoir une contamination par voie hématogène, c'est-à-dire à partir du sang, dans le cadre d'une septicémie ou d'une bactériémie. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une autre maladie, septique, les germes sont migrés jusqu'au niveau des méninges. Et à ce niveau-là, ça peut provoquer une méningite. Mais nous avons aussi une autre source, ça peut être une infection de voisinage. Vous avez une otite, une sinusite. Alors les gènes peuvent aussi quitter l'oreille au niveau de l'otite pour migrer jusqu'au niveau de méninges, provoquer une inflammation et pouvait acheter une méningite.
Voilà,
il y a les différentes sources de contamination.
Et la dernière préoccupation de...
Encore la dernière préoccupation de notre producteur qui propose une campagne de vaccination, de masse. Si j'ai bien compris, c'est une campagne de masse.
Voilà.
De masse. Alors, pour faire cette campagne de masse, il faut savoir qu'il faut qu'on soit dans une période épidémique confirmée.
Voilà.
C'est-à-dire que nous avons une épidémie qui est confirmée de l'énergie.
Mm-hmm.
Là, le gouvernement met en place des moyens pour qu'on mène une campagne de vaccination de masse.
Mm-hmm.
Mais comme on n'est pas en période épidémique, on n'a pas une épidémie de l'énergie au niveau du pays, tout ce que nous faisons, c'est que nous avons mis la vaccination dans la routine.
Voilà.
Dans la campagne de la vaccination de routine,
mm-hmm.
Et là, nous avons mis ce vaccin-là. Contre la méningite.
Mmh.
Donc, pour mener une campagne de masse, ça coûte coûter. Il faut savoir déjà qu'une campagne de masse pour méningite, ça coûte beaucoup de moyens.
Mmh.
Donc, il faut qu'on ait une épidémie vraiment confirmée. À ce moment-là, le gouvernement peut se mobiliser et mettre des moyens.
Mmh.
On ne peut pas d'emblée comme ça commencer à mener des campagnes de vaccination de masse, alors qu'on a déjà fait pour la routine.
Mmh. Voilà. Le docteur Dieudonné Mwamba, nous tendons vraiment à la fin de l'émission. C'est juste un petit message de 30 secondes pour les auditeurs autour de la méningite et nous clôturons par là.
Alors, par rapport au message que je peux donner à la population, ce que la population doit savoir par rapport à la méningite, c'est que au pays, le système de santé est organisé
mmh.
pour surveiller la méningite. Ce que nous demandons aux parents, c'est d'amener leurs enfants au niveau des centres de santé le plus proche dès qu'ils suspectent un cas de méningite.
Mm-hmm.
Donc, dès qu'ils suspectent cette maladie auprès de leurs enfants, ce que nous leur demandons, c'est d'amener cet enfant au centre de santé le plus proche pour que cet enfant soit consulté. Après, comme deuxième message de sensibilisation, comme le pays a déjà introduit dans la vaccination de routine le vaccin contre la rougeole, ce que nous recommandons ardemment aux parents, d'amener à la vaccination leurs enfants.
Voilà, merci.
En âge de vaccination. Et là, ils vont recevoir leur vaccin avec tous les autres vaccins contre la méningite.
Merci. Merci beaucoup, docteur Dieudonné Mwamba. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le chef des divisions de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Nous disons aussi merci au docteur Benoît Kebela, docteur Jean-Baptiste Sangi, tous les spécialistes de la santé qui ont commenté ces sujets sur la méningite avec les auditeurs de Radio Capi. Et puis nous disons aussi merci parce qu'ils étaient très nombreux sur la ligne à vouloir intervenir et nombreux aussi scotchés à leur radio pour suivre les paroles aux auditeurs. Merci à tous.
Allô? 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 Il ne répond pas.
Le rendez-vous de demain jeudi, c'est à 11h, heure de Kinshasa. Et en prélude de la journée internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, célébrée chaque deuxième dimanche du mois de mars, parole aux auditeurs de demain se penchera sur cette question. Cette journée vise à exploiter le pouvoir de la télévision et de la radio pour sensibiliser les populations aux problèmes de l'enfant. Une seule question pour l'émission de demain. Comment appréciez-vous les contenus des tranches de programmes de médias accordés aux enfants dans votre milieu? Réagissez déjà à présent en vous inscrivant à l'adresse pa@radioukapi.net. Nous disons merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission, Marie Chantalumba, Titoum Poutou, Pinto Kwale et Mimi Timbou pour la réalisation, et aussi Nicole Ngaka qui a supervisé cette émission que vous pouvez retrouver sur www.radioukapi.net et aussi à FM à 20h, heure de Kinshasa, 21h à l'est et au centre du pays. Et pour la musique, vous dites tous merci, mais surtout ne quittez pas parce qu'il y a autre chose que vous allez suivre tout juste après. Thank you.